Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
En notre compagnie en direct dans le mag À la bonne heure, Marie Boulier, autrice pour les livres jeunesse, et Virginie de l'association Éclat de lire. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Fréquence Mistral, vous avez rencontré lors du lancement de votre résidence de création jeunesse pendant le festival Les Correspondances de Manosque en septembre dernier. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver sur notre site internet tous les reportages consacrés à cette semaine de festival. Rappelons que chaque année, l'association Manosquine Éclat de lire, spécialisée dans le livre jeunesse, accueille un auteur ou une autrice en résidence ayant été sélectionné lors d'un appel à candidature et à un projet de livre. Alors tout d'abord Marie, comment s'est passé le festival ?
C'était super, c'était une sacrée entrée en matière parce que du coup je suis arrivée dans un Manosque complètement transformé et rempli de monde. Et moi ce que j'ai trouvé chouette, c'est que j'ai participé au festival en animant des ateliers avec les enfants, et c'est ça que j'aime bien faire aussi. Je suis beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là que dans le fait de parler par exemple en public. Du coup c'était vraiment super et ça m'a mise dans le bain tout de suite. C'était très très bien. Puis ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde aussi, des personnes que je connaissais pas encore.
Oui, je vous ai vu, vous baladiez avec votre chien sur la place de la mairie.
Oui, c'est vrai.
Et vous, Virginie, comment s'est passé pour l'association Éclat de lire ce festival ? Vous avez été très très actif.
Oui, chaque année, on programme le volet jeunesse et famille du Festival des Correspondances, avec qui on a le bonheur de travailler. Et pour nous, ça s'est vraiment très bien passé, tous les ateliers, les spectacles, etc. Et puis, c'est toujours une belle entrée en matière avec l'autrice ou l'auteur qu'on accueille en résidence, puisqu'on est directement dans le vif du sujet et dans une vie de festival, donc très active. Donc c'est toujours des beaux moments de rencontre, et ça l'a été avec Marie.
Qu'est-ce qui a fait que Marie Boulier a été invitée, sélectionnée ?
Il y a plusieurs critères, plusieurs choses, et on travaille donc avec différents partenaires, les médiathèques, les libraires, plusieurs personnes qui font partie du comité de sélection, des personnes d'Éclat de lire. Concernant Marie, il y a bien sûr son attrait pour son travail littéraire, son écriture, les sujets qu'elle aborde. On est aussi attentif aux maisons d'édition dans lesquelles les auteuristes sont éditées. Et puis, il y a aussi tout le volet médiation, puisque la résidence, telle qu'elle est proposée à Éclat de lire, il y a plusieurs sortes de résidences. Celle-ci est une résidence de création jeunesse, donc ça ouvre à différents volets artistiques. Et c'est 70% du temps pour l'auteur, l'autrice à passer sur son projet personnel, quel qu'il soit. On n'exige aucun rendu, aucune production. Et 30% de médiation sur le territoire manosquin et de la DLVA. Donc on travaille vraiment en relation avec les médiathèques, etc. Donc on est très très attentive au volet des médiations et des ateliers proposés. Et en l'occurrence, Marie nous a beaucoup parlé avec ses propositions autour de l'écriture du podcast, le fait que son récit que tu travailles aujourd'hui se situe aussi géographiquement à un moment donné ici, sur le territoire, donc ça a vraiment du sens de s'imprégner. Et ça, je laisserai Marie en parler, voilà.
Marie Boulier, il est écrit dans votre biographie, je lis. Marie Boulier est née au début de l'été et a grandi près de la mer, dans un pays de terre rouge, de thym, d'olive et de sieste ensoleillée. Depuis, elle se baigne partout, en toute saison. Où êtes-vous née, Marie Boulier ?
C'est drôle, puisque ma biographie, elle change au fur et à mesure des livres que je publie, c'est jamais la même.
En tout cas, j'ai adoré cette présentation, oui.
Je suis née à Montpellier et du coup j'ai grandi entre Montpellier et les Cévennes, en fait, dans l'arrière-pays montpelliérain, donc entre la terre rouge de Sommières et du lac du Salagou et la mer Méditerranée.
Quel a été votre parcours ? Je crois que vous avez fait entre autres des études de cinéma.
Oui, j'ai fait énormément de choses. J'ai commencé par faire un brevet de secrétariat quand j'avais 20 ans. J'ai fait un brevet de libraire aussi à l'époque, c'était à Montreuil. J'ai fait des études de médiation culturelle et j'ai fini par faire un master et une thèse que j'ai pas terminée, mais que j'ai un peu avancée quand même en études cinématographiques. Et j'étais spécialisée dans le cinéma documentaire.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers le livre jeunesse ?
Alors ça, c'était un peu par hasard. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire. Je voulais être autrice déjà quand j'étais petite fille, mais je ne l'ai jamais envisagée comme une carrière. En revanche, je publiais sur les réseaux sociaux des petits récits d'autofiction, donc à l'époque sur un blog et maintenant sur Instagram. Et il se trouve que j'ai été contactée par une éditrice de Thierry Magnier qui m'a proposé de faire un livre avec eux. Donc c'était pendant le confinement. Donc j'ai envoyé un projet de livre qui, pour le coup, n'a pas été retenu, mais dans la foulée, on a retravaillé ensemble et L'Enfant Tigre est sorti dans la collection Petite Poche aux éditions Thierry Magnier.
L'aventure était lancée.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, je me suis plus arrêtée et j'ai continué. Et en parallèle, j'ai toujours fait de la médiation, mais bien avant d'être autrice, j'en faisais déjà. J'étais bénévole il y a très longtemps dans une association qui n'existe plus, mais qui s'appelait le Génépi, qui faisait des interventions en milieu carcéral. Et je travaillais aussi dans des cafés associatifs comme médiatrice. Donc j'ai continué à faire ce travail de médiation et à côté, je me suis mise à écrire des romans.
Vous écrivez également pour des travaux universitaires, des revues, des concours de nouvelles?
Alors oui, concours de nouvelles, j'en ai gagné quelques-uns. C'était plutôt avant de travailler avec des éditeurs. Et les travaux universitaires, ça, c'est quelque chose qui me manque. Je n'ai pas encore retrouvé l'équilibre. Mais j'avais publié, oui, quelques articles et des critiques de cinéma, notamment quand j'étais en thèse. Et voilà, je le fais un peu moins maintenant, mais j'aimerais bien trouver un équilibre qui me permette de faire à nouveau un peu de recherche.
Vous le trouverez.
Mais je pense.
Vous écrivez aussi des petites histoires sur des nappes en papier dans des restaurants ou alors dans des carnets que vous emportez partout.
Ça, mes copains se moquent de moi parce que j'ai toujours des feutres et des carnets sur moi. Et du coup, ça occupe très bien les enfants quand ils commencent à se lasser au restaurant. Et à courir dans tous les sens. Je suis toujours celle qui est en train de leur écrire des petites histoires dont ils sont le héros, comme ça ils sont actifs et en même temps leurs parents peuvent manger tranquille. Bon, les miens sont plus grands maintenant, mais...
Revenons sur le pourquoi de votre séjour sur Manos, que vous avez donc répondu à un appel à candidature avec un projet de livre. Pouvez-vous nous parler de ce projet et de la genèse de ce livre?
Oui, alors en fait, au départ, ce qui m'intéressait, c'était parler de l'éco-anxiété, parce que du coup, j'interviens beaucoup avec des adolescents, et j'avais constaté que c'était quand même un sujet qui revenait, en tout cas, bien plus que pour les personnes de ma génération. C'est quelque chose qui, il me semble, en tout cas, les occupe et les inquiète plus. Du coup, j'ai fait un peu de recherche, et ce roman est en train d'évoluer là, pour aller vers quelque chose qui parle même beaucoup plus largement d'un monde, d'une société très libérale et liberticide. Et je pense que c'est la question de comment grandir dans ce monde-là, comment être adolescent, quelle perspective, quel avenir imaginer. C'est un truc qui me préoccupe, d'autant que moi, j'ai deux enfants adolescents, donc je me demande un peu qu'est-ce que c'est la suite pour eux. Et donc c'est en train de prendre un peu cette voie-là. Le récit parle d'un trio d'héroïnes qui partirait du plateau du Vercors et qui descendrait à Marseille en passant par ici, du coup par la région et par Manosque. Et dans un monde où en fait les adolescents sont complètement contrôlés par le gouvernement, puisque vu qu'ils sont l'avenir, ils doivent être très vite verrouillés dans leurs possibilités d'action. Et c'est parti aussi d'une émission que j'avais entendue à la radio où un chercheur disait qu'à l'époque de mai 68, il y avait plus de 30% de la population qui avait moins de 25 ans. Et que c'est ce qui a aussi généré le fait qu'il y ait une aussi grosse population jeune. Ça a généré ce mouvement-là et je me suis dit qu'est-ce qui se passe si à nouveau on est dans une population jeune un peu bouillonnante qui est comme ça conditionnée à ne pas bouger et comment ça peut exploser. Donc c'est un peu le récit d'une révolution adolescente.
Vous aviez lu un extrait de votre livre lors de votre lancement de résidence, oui, au centre Giono.
Ce qui était le début à l'époque, voilà, effectivement.
Oui. Alors une partie du récit se passe sur Manos, donc il était important de s'imprégner de ce territoire.
Oui, c'est ça, je trouve que c'est chouette. Enfin, moi j'ai beaucoup travaillé par exemple en regardant sur Google Maps, en me déplaçant, mais je trouve qu'aller marcher et sentir les odeurs et sentir le corps et expérimenter des sensations, ça permet d'être encore plus juste dans l'écriture. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai postulé à cette résidence en particulier, c'est parce que ça avait du sens de venir écrire ici, un récit qui se passe ici.
Allez-vous parler de la lumière de notre territoire?
Oui, absolument. Je ne m'en remets pas, c'est quand même assez incroyable cette lumière.
Oui, une sacrée lumière.
Je mets des photos sur Instagram tous les jours parce que je veux m'en souvenir quand je serai partie.
J'irai voir votre Instagram. Alors concrètement, comment se déroule une résidence?
Peut-être Virginie, tu sauras mieux en parler parce que tu as dû connaître plus de résidents et j'imagine que ça dépend des personnes. Mais moi, dans mon cas, du coup, comme disait Virginie tout à l'heure, je fais l'équivalent de 6 demi-journées d'atelier, en animation en tout cas par mois de résidence, ce qui en fait 18 en tout, plus le temps de préparation. Donc il y a toute une partie de mon temps qui est consacrée à la préparation des ateliers et ensuite à des temps sur place avec les enfants à animer les ateliers. Et le reste du temps, j'essaye d'écrire.
Donc vous avez un planning, vous vous levez tôt, vous structurez vos journées, j'imagine.
Ouais, je me lève tôt de toute façon parce que je suis venue avec mon chien qui a besoin d'aller se promener, donc on va se balader le matin en général. Et ouais, j'écris pas beaucoup, mais j'essaie de structurer le récit, j'essaie d'imaginer une forme et un squelette. Là, pour l'instant, c'est ça que je suis en train de faire.
Vous êtes une éponge en ce moment.
Ouais, je prends beaucoup la matière, j'observe, je me promène, je prends des notes vocales que je reporte ensuite. Donc là, je suis en train d'accumuler beaucoup de choses. Enfin là, je suis un peu à la fin de ce processus, je vais commencer à écrire là.
Mais ça sert à ça, une résidence, justement, pouvoir prendre son temps.
Exactement, et 3 mois en plus, c'est précieux, parce qu'il n'y en a pas de temps, finalement, des résidences aussi longues, souvent c'est 1 mois. Et là, c'est chouette, parce que ça permet d'être dans une énergie totalement différente, et justement de ne pas se presser et de s'autoriser à y aller tranquillement. Dans nos métiers qui sont quand même très précaires, c'est quand même formidable d'avoir ce temps long pour créer.
Alors justement, lors de votre résidence qui se déroule jusqu'au 22 décembre, vous animez donc jusqu'au 22 décembre 18 ateliers dans tout le territoire de la DLV Agglo. J'ai toujours du mal à le dire. En milieu scolaire, en bibliothèque et médiathèque. Quel est votre ressenti en échangeant avec les élèves? Alors justement, on parlait d'anxiété, de cette génération qui, bon, on est un peu, c'est vrai, dans un monde anxiogène. Quel retour vous avez avec les élèves?
Alors c'est très variable, pour plusieurs raisons, et notamment parce que les ateliers prennent des formes très différentes. Je fais des ateliers en cycle, là, avec des CM2, des 4e et des secondes. Les 4e et les secondes, je les vois 4 fois, les CM2 6 fois. Donc on a vraiment le temps de créer un lien, d'échanger, de se connaître. Et ça, c'est chouette. Et après, je fais des ateliers plutôt en one shot. Donc, je les vois qu'une fois. Donc, on va plutôt discuter de ce qu'ils lisent, de comment ils lisent, de ce qu'ils écrivent, etc. Mais avec les quatrièmes et les secondes, là, c'est chouette parce que la thématique, c'est habiter le monde. Et ça permet de se rendre compte que, effectivement, peut-être plus avec les secondes qui vont commencer à avoir déjà des réflexions sur le sujet, etc. Les quatrièmes, ils sont quand même plus à un âge où tout les agace un peu. Et en même temps, quand on leur laisse un peu le temps, ils commencent à produire des choses et à exprimer aussi des choses différentes, mais ça, l'intimité, il faut du temps pour aller la chercher, leur pensée personnelle. Là, pour l'instant, on a fait 2 séances, c'est encore un petit peu tôt, je sens que la morse, elle commence à arriver.
Ça se base aussi sûrement sur la confiance, et justement de les voir régulièrement.
C'est ça. Et puis du coup, leur donner quelque chose de moi, c'est-à-dire me présenter comme personne faillible, avec mes propres inquiétudes, et du coup, c'est vraiment une rencontre. Et c'est vraiment super chouette. Je suis très contente de ces ateliers.
Ça vous nourrit?
Ouais, complètement. Et puis, en fait, j'écris aussi pour les adolescents. Et ça m'intéresse de savoir qui sont les adolescents et de ne pas écrire à un public fantasmé, en fait. Donc, ça a du sens.
Virginie, comment se porte le livre jeunesse?
J'aurais du mal à répondre à cette question en général. Comment se porte le livre jeunesse? Ça dépend à quel niveau, j'imagine. Mais en tout cas, il est très vivant.
D'accord.
Il est très divers. En tout cas, au sein d'Éclat de Lire, on tient énormément à représenter cette diversité, tant sur les langues qu'on découvre, tant sur les illustrateurs, illustratrices qui travaillent. On a un comité de lecture jeunesse tous les mois, tous les premiers mardis du mois, où tout le monde est bienvenu.
L'association est active toute l'année, il faut le dire, c'est pas seulement pendant les
correspondances. L'association est active toute l'année, toutes les semaines à travers des différentes actions, dont des bibliothèques de rue dans 5 quartiers prioritaires, des crèches, etc. Et donc on propose la littérature jeunesse, le livre jeunesse contemporain aux enfants de diverses sphères, on va dire, principalement des enfants qui peuvent en être éloignés pour différents facteurs. Et à travers des manifestations telles que les correspondances, la fête du livre jeunesse qui aura lieu cette année du 19 au 24 mai. Partir en livre, etc. Mais le livre jeunesse se porte bien et haut en couleur.
Parfait. Marie, on constate que les enfants ou les adolescents ont beaucoup les yeux rivés ou braqués sur leur écran. Certains disent qu'ils délaissent la lecture. N'y a-t-il pas, pour une autrice ou un auteur, un enjeu quelque part à se dire, bon, je ne suis pas autrice, mais à se dire comment je peux faire pour ramener peut-être la jeunesse ou amener la jeunesse à la lecture? Qu'est-ce que je peux écrire de fort, de puissant, de profond qui puisse les éveiller à l'envie de se tourner vers la lecture et de délaisser un peu les écrans?
Moi, j'ai pas la prétention de me dire que je peux aller chercher des enfants. Je pense que c'est bien plus complexe que la simple qualité d'écriture de ce qu'on fait.
D'accord.
Et je pense que j'assume aussi d'écrire pour un public qui est déjà lecteur. C'est pas forcément mon envie profonde ou les valeurs que j'ai envie de défendre, mais c'est la réalité du métier, en fait. C'est
oui.
que on, On écrit, et particulièrement dans les maisons d'édition avec lesquelles je travaille, pour des enfants qui lisent déjà et qui ont déjà le goût de la lecture. Après, moi, ce que je constate, alors c'est bien, j'ai pas de statistiques sur le sujet, mais c'est que les ados arrêtent de lire en 4e, 3e, et à partir de la seconde, ils se remettent à lire, et les 6e lisent encore beaucoup.
Ah,
et
ça, donc, c'est une bonne nouvelle.
Ouais. Et puis souvent, quand on leur pose la question de « est-ce que vous lisez ?», ils disent non, et puis en fait, on se rend compte qu'ils lisent des mangas, ils lisent des revues, ils lisent énormément de choses. Ils lisent même sur leur téléphone, ou des cinématiques dans leurs jeux vidéo. Et donc en fait ils sont lecteurs, mais d'une autre manière, et c'est pas forcément grave. Moi je trouve que c'est important de leur laisser la possibilité d'explorer d'autres choses, et j'ai l'impression qu'ils reviennent quand même au livre. Et après le mérite de faire lire les enfants, il revient beaucoup plus aux enseignants, qui vont attirer leur curiosité, qui vont leur faire lire d'une certaine manière. Et dans les ateliers d'écriture, c'est aussi un prétexte pour les faire lire, et ça fonctionne bien.
D'accord.
Et après, évidemment, j'ai envie d'écrire des choses qui leur plaisent, qui les émeuvent et qui les intéressent. Mais je pense que c'est plus complexe que juste ça.
D'accord. Ouais. Donc mon conseil était un peu trop pessimiste.
Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux ados et les encourager à lire ce qu'ils lisent, même si c'est du manga. C'est très chouette de lire du manga.
D'accord. En tant qu'autrice, comment appréhendez-vous la notion de temps ? Parce que tout va très vite. Les jeunes scrollent sur les écrans, sur TikTok. Il faut que ce soit une vidéo d'une minute. Est-ce que vous questionnez à ce sujet-là ? Comment les ramener à ralentir le rythme ? En se disant qu'une heure de lecture, ce n'est pas une heure perdue. Et comment on peut se questionner sur cette notion de temps et leur dire, vous pouvez prendre du temps, arrêter de courir à un rythme effréné.
Alors ça, c'est compliqué. Et je pense que c'est aussi une histoire de mimétisme. C'est-à-dire que même nous, adultes, on vit dans une société qui nous pousse à aller toujours plus vite, à travailler plus, à ne pas s'arrêter, à continuer à produire, à même rentabiliser nos temps de repos. Donc je trouve que ce n'est pas un très bon modèle déjà pour des enfants et des adolescents. Donc c'est peut-être à nous aussi, à la maison, de leur montrer qu'on peut lire et ralentir et nous mettre dans le canapé avec un bouquin. Et ensuite, d'un point de vue plus pragmatique, il y a des maisons d'édition, comme par exemple les éditions Thierry Magnier avec la collection Petite Poche, ou les éditions Nathan, ils ont une collection qui s'appelle Cours Toujours, qui sont des romans courts qui se lisent vite. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mm-hmm. Mais je pense que la principale chose, c'est leur montrer que leurs parents sont aussi en capacité de ralentir et que c'est comme ça que ça se fait.
Ça passe aussi par l'éducation.
Bah oui, par l'exemple.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mesdames ?
Eh bien oui, moi j'ai une information à rajouter pour clore la résidence de Marie. Mmh. On a programmé donc au Centre culturel et littéraire, comme chaque mois, on a une programmation collective. Et donc le 10 décembre, Marie Boulier, autrice, et Coralie Simé, illustratrice, seront là pour une lecture dessinée sur un livre à paraître chez Thierry Magnier,
oui,
si je ne me trompe pas.
En février 2025.
En février 2025.
Une avant-première.
Exactement. N'hésitez pas à venir. Donc, c'est un public familial ouvert à toutes et tous. C'est gratuit. Mardi 10 décembre à 18h30 au Centre culturel et littéraire.
Vous pourrez retrouver de toute manière l'interview sur le site de Fréquence Mistral, onglet Manosque. Merci, mesdames.
Merci.
Bonne continuation, Marie.
Merci.